RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF le 18-19 en région avec Alexis Claudrette, ça.
Sur RCF France-Ardenne, sur RCF Cœur de Champagne, on est très heureux de vous retrouver ce mardi pour vous accompagner pendant les 50 prochaines minutes où on parlera de la vie de notre diocèse et notamment du carême avec le père Thierry Bettler, vicaire général du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi avec Estelle Mao pour présenter la campagne de carême 2024 du CCFD Terre Solidaire. Vous le savez, le mardi, il y a les chroniques de Jean-François Boulanger avec Mémoire Chrétienne, l'épisode 8, consacré au 15e centenaire du baptême de Clovis. Un maire qui nous parle ce soir, Michel-Claude, maire de Tourteron dans les Ardennes, sera au micro de Jean-Pierre Benoît, tout comme Anne Dumontier, elle est auteure, elle fera un flashback sur le 8 avril 1963, un événement qui a eu lieu à Petra, qui a donné de l'inspiration donc à Anne Dumontier, nièce du père Bernard Gouraud, pour écrire un livre disparu à Petra. Nous serons aussi avec Alexandre Noll, mon CEP en Champagne-Ardenne, CEP, traduction, conseil en évolution professionnelle. Alexandre Noll est le responsable du déploiement de services. Voilà pour le sommaire rapide de cette émission, parce que le programme est chargé. Nous, on ouvre avec un numéro de Mémoire Chrétienne avec Jean-François Boulanger. Bonjour.
Bonjour.
Le 15e centenaire du baptême de Clovis, épisode 8. La guerre de Reims n'aura pas lieu. Ça, c'est du spoil dès le titre. La guerre de Reims n'aura pas lieu. C'est par cette phrase que vous avez conclu la dernière des émissions que vous avez consacrée au 15e centenaire du baptême de Clovis. Pourquoi cette expression, cette citation, Jean-François ?
Alors oui, c'est une citation parce que c'est un titre que l'hebdomadaire protestant Réforme avait utilisé le 21 septembre 1996. Pour titrer un article consacré à la polémique qui, à l'époque, agitait une certaine France autour de la commémoration du baptême de Clovis. Et effectivement, la guerre de Reims n'aura pas lieu parce que le voyage du pape à Reims va se dérouler de telle façon que la polémique va se trouver complètement désamorcée.
Pourtant, Jean-François Boulanger, pour récapituler quelques éléments que vous avez déjà évoqués dans ces chroniques et dans les chroniques précédentes, pourtant, la date même de la venue de Jean-Paul II à Reims avait suscité la polémique.
Absolument, parce qu'elle a lieu le 22 septembre 1996, c'est-à-dire le jour anniversaire de la proclamation de la République, qui est faite après l'abolition de la monarchie, la veille, le 21 septembre 1792. Et donc, les détracteurs du 15e centenaire y ont vu une volonté polémique à l'égard de la tradition républicaine. Pourtant, au départ, il avait été prévu que la commémoration ait lieu au moment de la fête de la Sarmie, à Reims, c'est-à-dire au début du mois d'octobre. Et finalement, parce que le voyage de Reims va s'intégrer dans une visite pastorale plus large de Jean-Paul II, qui a été invité par la conférence épiscopale en France, eh bien, la date va être déplacée. La visite pastorale va se dérouler du 19 au 22 septembre 1996, avec comme étapes successives Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, afin d'honorer Louis-Marie Grignon de Montfort, Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, puis Tours et la commémoration du 16e centenaire de Saint-Martin, et enfin Reims. Et donc la venue de Jean-Paul II à Reims doit être placée dans un contexte qui est beaucoup plus global que celui du baptême de Clovis. L'étape vendéenne que j'ai évoquée tout à l'heure est sans doute celle qui a suscité le plus de critiques de la part de ce que j'appellerais les intégristes de la laïcité, parce qu'évidemment, elle se déroulait en Vendée. Alors Jean-Paul II a évidemment évoqué ce qui s'était passé en Vendée, mais il a pris soin d'indiquer que, je le cite, « dans de terribles affrontements, bien des actions ont pu être marquées par le péché de part et d'autre ». Donc il fait la part des massacres qui ont pu avoir lieu de chaque côté. Mais c'est surtout l'intégration de Tours dans ce périple français qui va mériter notre attention dans une perspective mémorielle.
En quoi la messe du 16e centenaire de la mort de Saint-Martin peut-elle éclairer d'un jour particulier le 15e centenaire du baptême de Clovis, Jean-François ?
Alors la réponse va appartenir à Mgr Honoré, qui était archevêque de Tours, et d'ailleurs qui était venu à Reims au moment de la fête de la Sarmie, au moment de la préparation du centenaire. Et donc dans le Figaro du 4 juin 1996, il avait publié un texte intitulé « Clovis et Saint-Martin ». Et il y affirmait, je le cite, « Il n'est pas téméraire de penser que le sillage de Martin a frayé la voie où Clovis serait entré. Jean-Paul II, dit-il, ne s'y est pas trompé, qui viendra bientôt en même temps à Reims et à Tours pour célébrer ce double mémorial de la fondation de la France. »
Il y a donc un lien entre les deux événements. Sont-ils cependant sur le même plan ?
Non, et on a le sentiment que le plus important aux yeux de Monseigneur Honoré, et peut-être pas simplement de lui, mais peut-être de l'épiscopat en français en général, c'est le premier, c'est-à-dire celui de Tours. Et Monseigneur Honoré le montre par une série de formules bien réfléchies qui placent les deux événements l'un en regard de l'autre. Et à chaque fois, il cite bien sûr Clovis, parce que c'est la grande polémique du moment, mais on a le sentiment que c'est justement une concession faite à l'atmosphère ambiante, mais qu'en réalité, l'événement le plus important est celui dont Saint-Martin est l'acteur. Je cite ce qu'il dit. Il commence par affirmer « Le guerrier franc fonde son royaume sur les débris d'un empire qui se défait. Le moine de Marmoutier, autrement dit Saint-Martin, apporte à la nation nouvelle qui se cherche une culture qui appartient, comme le dit Pascal, à un autre ordre de la charité. Or, évidemment, pour un chrétien, un ordre fondé sur la charité semble beaucoup plus important que celui qui est fondé par la conquête et la guerre. Une seconde formule sous-entend la même hiérarchie entre l'action de Clovis et celle de Saint-Martin, toujours dans le texte de Monseigneur Honoré, je le cite, « L'un, par son baptême, a inscrit le temporel dans l'éternel, ça c'est Clovis, l'autre a inscrit l'éternel dans le temporel, ça c'est Martin, et la conversion. » Et c'est parce que Saint-Martin a inscrit l'éternel dans le temporel en tant qu'apôtre de la Gaule que le de Clovis a été possible.
Et quand le pape se rend à Tours, avant d'aller à Reims, donc, que dit-il ?
Alors, on a eu l'occasion de dire qu'au moment où le diocèse de Reims allait se lancer dans la grande aventure de la préparation du 15e centenaire, elle était en pleine année de la solidarité. C'est l'année de la venue de Monseigneur de Courtrai. Et paradoxalement, ou peut-être pas si paradoxalement que cela, c'est le discours que le pape tient à Tours en évoquant Saint-Martin, je le cite, « témoin remarquable de la charité évangélique, celui qui partage son manteau en deux, comme chacun sait. » Et en prolongement de la messe, Jean-Paul II rencontre dans l'après-midi, dans la basilique Saint-Martin, les blessés de la vie, c'est-à-dire 200 personnes accidentées, handicapées physiques ou mentaux, malades du sida, SDF, immigrés, chômeurs, et il lance un appel en faveur d'une solidarité réelle entre tous. Un discours d'ailleurs qui a été peu entendu de tous ceux qui attendaient par contre avec impatience le discours que le pape tiendrait le lendemain à Reims.
Un discours, vous l'avez dit, que tout le monde attendait, Jean-François Boulanger. Est-ce que ce discours a répondu aux attentes ?
Justement, tout le monde n'avait pas les mêmes attentes.
Donc tout le monde n'a pas pu être contenté.
Voilà. En tout cas, ça n'a pas correspondu à l'attente des amateurs de polémique. Imaginons que le centenaire ait eu lieu à une époque où les chaînes d'information continue auraient déjà existé telles qu'elles existaient aujourd'hui. Il y en avait déjà quelques-unes, hein. Il y avait LCI par exemple. Hein. Eh bien, justement, les polémistes qui peuplent les plateaux de ces chaînes d'information n'auraient pas eu grand-chose à dire. Hein. Et les polémiques, du coup, se seraient dégonflées comme un mauvais soufflet. Et c'est pour cela que je dis que la guerre de Reims n'a pas eu lieu. Par contre, tous ceux qui avaient lu les textes que l'épiscopat français avait élaborés depuis la préparation du centenaire, tous ceux qui avaient lu la biographie que Michel Rouche avait consacrée dans cette perspective à Clovis, n'ont absolument pas été surpris, puisque le pape a souligné que le baptême de Clovis avait la même signification que tout autre baptême, ni plus ni moins, et qu'il devait nous amener à réfléchir sur notre vocation de baptiser. Je cite Jean-Paul II, « Cette grande célébration jubilaire du baptême vous donne l'occasion de réfléchir sur les dons que vous avez reçus et sur les responsabilités qui en découlent. » Le pape a parlé, la messe est dite.
Parfait, le jeu de mots est excellent Jean-François Boulanger, on vous en remercie et on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode 9 qui sera consacré à Clovis et les protestants notamment.
À la semaine prochaine.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Sur RCF, Cœur de Champagne, RCF, Reims-Ardennes, le soir, un maire qui nous parle ce mardi. Avec qui êtes-vous, Jean-Pierre ?
Et notre maire aujourd'hui est Michel Claude. Il est le maire de Tourteron, dans le département des Ardennes. Michel Claude, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors Tourteron, bon, moi je connais parce que je vois toujours souvent des pommes de Tourteron. C'est dans les Ardennes, hein. C'est connu, mais il n'y a pas sans doute que ça. Alors monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune de Tourteron ? Combien d'habitants aujourd'hui à Tourteron ?
Le dernier recensement date de, c'est tout récent, de janvier 2023. On était 179. Mais depuis, je pense que plusieurs familles sont venues s'installer. On doit frôler les 200, je pense.
Alors, ça veut dire quand même, Michel-Claude, que nous avons aujourd'hui une population nouvelle qui arrive dans votre village. Est-ce que c'est un effet Covid, on pourrait dire?
Non, sincèrement, je pense pas. Non, non. On a eu un peu de décès, donc des maisons se sont libérées, ça a été vendu. Des jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui viennent se réinstaller. Des personnes entre 20 et 30 ans, des couples entre 20 et 30 ans avec des enfants. Ce qui est très bien pour notre école, évidemment.
Évidemment. Et ça veut dire aussi qu'il y a sans doute des personnes, et en particulier des jeunes, vous le signalez, qui aiment bien être à la campagne en sachant que Tourteron, c'est combien de kilomètres pour le bourg le plus proche?
Alors donc, pour faire rapide, Attigny est à 10 km, Le Chêne 10 km, Charleville 30, Rethel 20 et Reims 60, une soixantaine pour Reims.
Alors, on trouve quand même des choses à Attigny, on n'est pas obligé d'aller très très loin, donc on a quand même pas mal de facilité. Alors vous-même, Michel-Claude, vous êtes maire depuis combien de temps à Tourteron?
J'ai été élu en juillet 2020. 2020, suite au Covid, ça avait été décalé, les élections, donc juillet 2020, donc jusque mars 2026. Et c'est mon premier mandat.
Mais avant, vous étiez peut-être déjà au conseil municipal?
Du tout, du tout.
Ah, vous êtes arrivé comme ça. Ah oui, alors. Ah oui. Alors, Tourteron, la population, vos 179 habitants, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a des retraités, il y a les jeunes dont vous parlez. Quelle est la population aujourd'hui de Tourteron?
Moi, je suis arrivé au village en août 86. Il y avait 7 fermes à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en reste plus qu'un. Oh. Par contre, toutes les terres sont cultivées, bien évidemment. Ce sont les paysans qui viennent de loin, même de la Marne, pour cultiver par chez nous. Mais oui, il reste seulement un paysan.
Oui, ça, on ne s'imagine pas quand on sait quelque chose de nouveau depuis quelques années seulement. C'est que lorsqu'on est dans un village, on a des terres cultivées avec des paysans, comme on dit, qui viennent de loin
qui
pour cultiver.
C'est
incroyable.
C'est incroyable, c'est vrai.
Est-ce que vous avez dans votre commune, dans votre beau village, Michel-Claude, quelques projets? Est-ce qu'on va refaire la voirie? Est-ce que vous allez vous occuper des fleurs? Est-ce que, voilà, l'embellissement, certainement
là,
des choses.
On a un gros dossier en cours, c'est la réfection de l'église. Par un gommage, c'est le karcher en beaucoup moins agressif pour les pierres. C'est le gommage, c'est une grosse entreprise de Reims qui va venir nous faire ça pour un montant de 80 000 euros.
Ça coûte cher, hein?
80 000 euros subventionnés quand même à 80%, entre
oui.
la Comcom, le décret de Préard-Denève, le département, l'État, on n'aurait que 20% de notre charge.
Alors c'est vrai que, certes, les églises sont moins utilisées aujourd'hui, mais tout de même, dans un village, ça fait partie du patrimoine, et il y a encore beaucoup de personnes qui se rappellent des obsèques de l'un, de la communion d'un autre,
et qui
pour telle ou telle cérémonie veulent revenir à Tourteron, revenir à leurs racines. Ça, c'est très important pour le village.
C'est juste, puis notre église, c'est une belle église, l'église est classée. Elle est classée tout comme trois croix de chemin, on a trois croix de chemin qui sont classées, donc on fait pas n'importe quoi dans le village.
Ça veut dire aussi que vous avez autour de vous, au conseil municipal, une petite équipe qui vous aide. En particulier,
oui,
il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'embellissement. Est-ce que vous êtes candidat pour une fleur, une deuxième fleur? Est-ce que vous êtes dans cette catégorie de concours? Non, pas forcément.
On l'a eu il y a une paire d'années avant moi, donc deux mandats avant moi. On avait obtenu une fleur. Et cette année, je crois qu'on en parle sérieusement, je crois qu'on va refleurir un peu le village, ça serait plus accueillant, bien évidemment.
Est-ce que le maire aujourd'hui, on les dit souvent avec les agriculteurs en ce moment, qui manifestent, même si en ce moment c'est le salon de l'agriculture, des gens qui se plaignent un peu de dire, bon, ben, il y a quand même beaucoup de formalités administratives pour le maire d'aujourd'hui.
C'est un travail quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir une super secrétaire de mairie. Elle fait un travail époustouflant. Heureusement qu'elle s'en va, cette secrétaire-là, parce que ce ne serait pas possible. Hein. On dormirait à la mairie. Hein.
Parce que finalement, vous, c'est peut-être indiscret, mais vous êtes encore en activité, vous, Michel-Claude?
Non, 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 non. Je suis pensionné, comme disent nos amis belges.
Parce que on a remarqué, et les auditrices et les auditeurs de RCF le remarquent bien évidemment, lorsque nous sommes avec eux, avec les maires, il y a quand même une distinction entre les maires qui ont une activité professionnelle et qui ont du mal à travailler comme maire, parce que pour prendre des rendez-vous de réunion, par exemple, en journée, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il est quand même un peu coincé.
Ça va être super compliqué, oui, tout à fait. Je vois pas comment j'aurais pu cumuler les deux. Hein.
Et avec la communauté de communes, c'est vrai que la communauté de communes a des responsabilités nouvelles, mais le maire, il reste, on le dit souvent dans cette émission, il reste quand même le patron dans sa commune.
Dès qu'il arrive quelque chose, la première personne qu'on cherche à contacter, c'est le maire. Quoi qu'il arrive, des bonnes ou des mauvaises choses, c'est le maire.
Ça veut dire que dans le maillage, on parle toujours des ministres, des députés, des sénateurs, bon, qui jouent leur rôle et qui jouent leur mission. Évidemment. Mais le maire dans une commune, c'est celui qu'on voit, qu'on contacte. Vous connaissez tout le monde, vous-même, à Tourteron.
Évidemment, oui.
Et vous-même, vous étiez habitant, vous êtes né à Tourteron, enfin vous êtes d'origine?
Ah non. Mon père travaillait à la SNCF tout comme moi. Donc on a fait la Meuse, on a fait la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Marne. On est arrivé dans les Ardennes en 71.
Mais vous avez été adopté finalement.
Oui,
par les Ardennais. Parce que, bon, les Ardennais, c'est un tempérament, c'est une façon de faire. Une fois qu'on fait partie un petit peu de la famille des Ardennaises et des Ardennais, on fait partie, j'allais dire, de la famille.
C'est vrai. Je me souviens quand, j'étais contrôleur SNCF, PGV, et on allait à Valence dans le sud, donc on leur parlait des Ardennes, ils avaient presque peur. Hein. Ils disaient « mon pauvre », et ils pleuraient en nous regardant, hein, en se disant « c'est quoi ce département-là ?»
Ça me fait penser à un maire qui est d'une commune voisine de la vôtre, qui nous disait qu'un jour, une journaliste du Monde était venue faire un reportage sur une commune ardennaise. Elle était habillée d'ailleurs avec un double manteau de fourrure, croyant arriver en Sibérie. Et, et elle a regardé, elle regardait les Ardennais comme des êtres un peu sauvages. Et ça fait les délices de Yanni Hureau, hein, dans la Bequette de l'Ardennais.
Oui,
mais pour conclure, puisqu'on arrive au terme de notre émission, est-ce qu'on peut dire, Michel Claude, vous qui êtes maire de Tourteron dans les Ardennes avec ses fameuses pommes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un maire heureux, finalement?
Oui, sincèrement oui. Ça me passionne comme tâche, mais c'est vrai, ça me plaît. J'ai la chance d'avoir quand même des administrés sensibles à ce qu'on fait. Je pense qu'ils s'en rendent compte. C'est un métier de tous les jours quand même. Hein,
et puis ils doivent se rendre compte eux-mêmes de l'investissement que ça représente et de la passion que vous y mettez. En tout cas, merci Michel Claude d'avoir été avec nous. Maire de Tourteron, là où il y a de très très belles pommes. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Et puis sans doute que dans quelques semaines, on aura l'occasion de vous retrouver avant la fin de l'année. Ça donnera l'occasion de redonner un petit coup de projecteur sur Tourteron et le département des Ardennes.
Le 18-19 sur RCF.
Et comme on a pris un petit peu d'avance, l'occasion de retrouver ce soir le père Thierry Bettler, vicaire général du diocèse de Reims et des Ardennes, comprendre comment il vit le temps du carême. Thierry Bettler, bonjour.
Bonjour Alexis.
Le carême, Thierry Bettler, pour vous, qu'est-ce que cela représente?
J'avais envie de dire d'une manière très simple, 40 jours, la quarantaine. Mais une fois que j'ai dit ça, les auditeurs se demandent qu'est-ce que je mets dans ces 40 jours.
Et puisque vous posez la question, on vous la retourne directement. Question rhétorique.
Facile mon cher. C'est surtout un chemin. Un chemin, c'est pas un temps en soi, comme contrairement on peut le dire, il faut faire le carême, je fais mon carême, c'est pas un temps en soi le carême, c'est vraiment un chemin qui nous est proposé en Église pour avancer vers la fête de Pâques et pouvoir célébrer, j'allais dire, le mieux possible. On ne sera jamais à la hauteur de l'événement qu'on célèbre, mais célébrer de tout notre cœur, de toute notre foi renouvelée, la mort et la résurrection du Seigneur le jour de Pâques et le temps de Pâques qui va le continuer.
Vous, Père Thierry Bettler, comment vivez-vous ce temps du carême?
D'abord avec mon ministère. Vous imaginez bien, vous avez rappelé en m'accueillant que j'étais vicaire général. Ça, je pense que tous les auditeurs l'ont bien compris. Depuis le mois de septembre, vous savez, j'ai rejoint l'équipe de la cathédrale de Reims. Et donc, je retrouve un peu du ministère paroissial. Et je retrouve surtout, et ça va éclairer mon carême cette année particulièrement, je retrouve l'accueil, l'accompagnement des catéchumènes. Et le carême, je me rappelle ainsi que le carême prend son origine historique dans la préparation spirituelle et j'allais dire même pratique des catéchumènes pour qu'ils puissent être baptisés justement dans la mort et la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire à Pâques.
Père Thierry Bettler, le temps du carême est souvent associé comme étant un temps de privation. Alors c'est une question un peu plus personnelle, mais est-ce que vous-même vous consentez à faire certains efforts, certaines concessions pendant ces 40 jours ?
Alors je disais tout à l'heure que le carême c'était un chemin. Et effectivement le mot effort il sort naturellement quand on parle du carême. Et puis le mercredi décembre, on est rentré en carême et on a eu cette exhortation à vivre le jeûne, à vivre le partage par l'aumône, à vivre la prière. Ça suppose effectivement de notre part de mettre un peu notre volonté, donc de faire des efforts là ce sens. Mais ces efforts sont pas pour eux-mêmes, c'est vraiment le Pâques que je veux faire pour me prendre la direction de Pâques et célébrer Pâques. Le temps du carême, l'histoire, la tradition de l'Église nous donne des textes splendides, magnifiques. Et mon ministère de prêtre, c'est bien sûr de les prendre, de les recevoir, de les maturer un peu pour moi-même pour pouvoir les annoncer et les commenter à la communauté, à l'Assemblée. Et donc là, tout particulièrement dans cet esprit de comment on se met en route vers Pâques. Et je parlais des catéchumènes parce que vraiment, ça éclaire le carême. On est en une année B, une année où on lit Marc, mais s'il y a les scrutins, les gens savent peut-être pas ce que c'est, mais ils en verront peut-être célébrer dans les paroisses où il y a des catéchumènes. On va relire les grands textes comme sont celui de la Samaritaine, comme sont celui de l'aveugle né, comme sont celui de la résurrection de Lazare. Vous savez, les commenter pour les autres, la première vertu, la première grâce qui est faite, c'est que celui qui le commente se nourrit, se fait grandir lui-même. Je crois que c'est le premier point qui va nourrir mon carême cette année.
Merci Père Thierry Bettler. Tout de suite, l'actualité régionale avec le journal. Les titres de ce mardi 27 février, en cette période de vacances scolaires, les lycéens ardennais en profitent pour remplir les dernières formalités sur la plateforme Parcoursup. La ville de Charleville-Mézières valorise quant à elle son territoire et ses formations par le biais d'une exposition présentation. Pour montrer son engagement envers ses communes, la région Grand Est installe des panneaux bleus. La région aide ses communes aux entrées des villes et villages, dont le premier à Mailly-le-Camp dans l'Aube.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Dans le prolongement de la nuit de l'orientation et de l'étudiant organisée il y a bientôt une semaine au parc des expositions de Charleville-Mézières, aux abords de la gare, lieu passant de nombreux lycéens et étudiants ardennais, est organisée une exposition. Celle-ci met en valeur les différentes formations proposées sur le territoire d'Ardennes Métropole et propose des comparaisons entre le coût de la vie étudiante dans les Ardennes et principalement à Charleville, avec le coût de la vie étudiante dans des villes de taille plus importante. Guillaume Maréchal, vice-président d'Ardennes Métropole.
Depuis 2014, on a gagné près de 1000 étudiants sur Charleville-Mézières. Donc on voit que cette stratégie enseignement supérieur, développement des formations paye aujourd'hui. Eh bien, on veut continuer à informer les jeunes carolomassériens, leurs familles et les jeunes ardennais, mais aussi alentour, des formations qui sont disponibles sur le territoire. On a des nouvelles formations qui ouvrent à la rentrée, que ce soit à Charleville-Mézières avec le DTS manipulateur radio, à Sedan avec un BTS sur les professions immobilières. Donc on voit que le territoire bouge, il y a de nouvelles formations. L'objectif, c'est d'informer sur l'ensemble de ces formations. Il y a près de 80 diplômes dans l'enseignement supérieur dans les Ardennes, donc on a quand même du choix. Et aussi d'informer sur le coût de la vie étudiante à Charleville-Mézières. Avoir un studio à Charleville-Mézières, eh bien, c'est beaucoup moins cher qu'à Reims ou à Paris, mais aussi on va pouvoir comparer les prix entre une entrée à la piscine, une entrée au cinéma, une entrée au bowling, et donc bien montrer que, en plus du coût du logement, eh bien, la vie est beaucoup moins chère dans une ville à taille humaine comme Charleville-Mézières, et qu'il y a aussi une vie étudiante, puisqu'on pourra également informer de l'ensemble des événements qui se passent sur la ville.
L'exposition près de la gare est visible jusqu'au 14 mars, jour de fermeture de la plateforme Parcoursup. Forte de l'ouverture de nouvelles filières comme le BTS Imagerie ou encore le BTS Profession Immobilière, la ville de Charleville-Mézières espère passer le cap des 3000 étudiants à la rentrée de septembre 2024. Petit détour par Paris et le Salon International de l'Agriculture, le stand de la région Grand Est a été inauguré hier soir en présence du président de Grande Région, Franck Leroy, et de Maximin Charpentier, président de la Chambre d'agriculture Grand Est. Pour retrouver le stand de la région Grand Est sur le salon, rendez-vous porte A2, pavillon 3, allée 1, stand numéro 102. Dès maintenant, réservez vos places pour le vendredi 15 mars à partir de 19h à l'espace Flambeau de la maison de quartier Jean Jaurès de Reims. Quatre artistes de la scène chanson rémoise, Jean-Pierre Fauré, Lucie Joy, Mathias Ness et Hervé Acriche, leurs accompagnateurs François Barizot et Vincent Bardin, leur sonorisateur Benjamin Labourreau, ont choisi d'offrir une soirée chantons solidaire au Secours populaire français. Ils croiseront leurs univers et leur répertoire en un spectacle de chansons placé sous le signe de la solidarité. Billetterie, recettes du bar et bénéfices des ventes de livres et CD seront intégralement remis au Secours populaire français afin d'alimenter une solidarité plus vivante et nécessaire que jamais. Premier concert 19h30, ouverture des portes à 19h, tarif unique 10 euros, renseignements et réservations conseillés au 06 27 77 52 63. 06 27 77 52 63. Le premier panneau, la région et de ses communes, a été installé le 19 février dernier à Mailly-le-Camp, commune située au nord du département de l'Aube. Pour le président de la région Grand Est, Franck Leroy, ce panneau reflète l'engagement de la région Grand Est envers ses communes.
L'objectif de cette plaque, il est double. Il est d'une part de montrer aux territoires ruraux que la région les soutient. La région apparaît pour certains comme une entité distante des territoires, parce que notre région est très grande. En réalité, on a 12 maisons de la région présentes sur le territoire. Et sa deuxième vertu, c'est de montrer à nos concitoyens qu'en aidant nos territoires, on a des compétences liées à la proximité. Beaucoup ont pensé, et aujourd'hui, si les participations dans les scrutins départementaux, régionaux sont faibles, c'est parce qu'un certain nombre de concitoyens ne savent plus à quoi servent le département, la région et les collectivités intermédiaires. On représente une taille importante aujourd'hui. On est le premier investisseur dans les territoires. Il faut le rappeler, il faut le montrer, parce que quand on sait que sa salle des fêtes, quand on sait que la boulangerie du village a été sauvée grâce à une action ou à une modernisation entreprise par la région, c'est important de le faire savoir parce que ça donne du sens à l'action politique et ça donne aussi du sens pour nos concitoyens qui sont un peu perdus aujourd'hui dans l'univers de l'Europe, de l'État, des départements, des régions, des intercommunalités, des communes. Voilà, savoir qui fait quoi, c'est important parce que c'est aussi un facteur de remobilisation de l'électorat en période électorale et c'est important.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Sport, ça ne passe pas pour le Champagne Basket. Les hommes de Thomas Andrieux ont été battus en 8e de finale de la Coupe de France hier soir, 83-80. Désormais, il n'y a plus qu'à se concentrer sur le championnat de Pro B pour décrocher une place en play-off en fin de saison. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Depuis plus de 60 ans, le CCFD Terre Solidaire est missionné par les évêques pour animer le carême, cette période de 40 jours qui précède la fête de Pâques. Estelle Mao, membre de la délégation diocésaine du CCFD Terre Solidaire, nous présente les différentes animations avec Christian Lancio.
Bonjour Estelle.
Bonjour Christian.
Merci Estelle d'avoir accepté notre invitation à venir, ben comme tous les ans on peut le dire, nous parler de la campagne de carême CCFD et notamment bon, du thème d'année.
Le thème d'année cette année c'est la justice économique avec cette phrase choc, les crises alimentaires se multiplient, décuplons la force de nos actions. C'est vrai que tous les ans le CCFD approfondit une des causes majeures de la faim. Et cette année, c'est la question de la justice économique. Derrière ça, en fait, c'est qu'on veut une économie plus responsable au service d'une souveraineté alimentaire pour tous. Il faut rappeler qu'il y a 345 millions de personnes qui sont encore touchées par la faim, que la pandémie, les problèmes au niveau mondial, les guerres, on la renforce d'autant plus et on rajoute des injustices, des rapports des multinationales avec le système économique qui ne sont pas forcément toujours en faveur des droits humains. Ça fait que des gens se retrouvent et sont maintenus dans la pauvreté. Et le CCFD Terre Solidaire, il essaye, en soutenant des partenaires, ça représente 3,7 millions de bénéficiaires directs, de proposer un autre modèle et c'est de résoudre cette faim et cette pauvreté.
Alors, deux mots, effectivement, sur le CCFD Terre Solidaire. On peut dire que c'est la première organisation non gouvernementale de développement. Vous nous rappelez un petit peu comment elle est née, cette organisation?
Le CCFD Terre Solidaire, effectivement, c'est la première ONG de développement et elle a été fondée à l'appel des évêques de France, il y a plus de 60 ans, pour effectivement dire il faut lutter contre la faim. Donc les chrétiens se sont mobilisés. Elle finance 621 projets portés par des organisations locales dans 72 pays. On n'envoie pas de volontaires, c'est des organisations qui existent déjà, qu'on rencontre, qu'on soutient sur du long terme. Et c'est pour ça qu'on fait une campagne d'appel aux dons et que le CCFD Terre Solidaire propose la collecte le cinquième dimanche pour financer ces différents projets.
621 dans 72 pays, c'est énorme. Il y a plus d'un tiers des pays du monde qui sont concernés.
Alors, c'est des zones géographiques bien particulières. Ça fait beaucoup. Il y a énormément de situations complexes dans les différentes zones du monde. Et on essaye d'être le plus présent auprès des partenaires.
Alors, comment ce thème d'année va être décliné, on peut dire, localement ?
Dans notre espace missionnaire, il y a un événement déjà qui va se dérouler demain. Nous proposons une soirée bol de riz au presbytère de Cézanne à partir de 19h. Nous allons pouvoir manger tous ensemble et ensuite il y aura la projection d'un film qui s'appelle « L'illusion de l'abondance », un documentaire qui a été réalisé par deux personnes en collaboration avec le CCFD Terre Solidaire en Amérique latine. En fait, ça parle du combat de trois défenseurs avec un E, puisque ce sont trois femmes dans différents pays d'Amérique latine qui luttent contre des multinationales qui ne respectent pas les droits de l'environnement, ne respectent pas les droits des personnes à disposer de la terre, de leurs ancêtres. Et donc ça explique ce qui se passe réellement autour de ces grands mouvements économiques. Donc ça sera l'occasion effectivement de pouvoir échanger ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça, qu'est-ce que le CCFD peut faire. Et effectivement, on terminera par un temps de prière. Sinon, il y a effectivement le 17 mars la messe du cinquième dimanche qui est préparée par l'intégralité du doyenné. On sera en union de prière avec les intentions de prière qui ont été rédigées lors de la formation. Et puis aussi tout ce qu'on a partagé ensemble. Suivant les différentes paroisses, il y aura un moment de convivialité à la fin de la messe.
Il y a encore un mois, puisque le Pâques est le 31 mars, donc bonne fin de carême à tous.
Merci Estelle Mao et Christian Lancio depuis Cézanne.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, on retrouve une nouvelle invitée, Anne Dumontier. Elle est la nièce du père Bernard Gouraud. Elle est auteure, écrivain. Son livre « Disparu à Petra » vient de paraître. Elle nous le présente avec Jean-Pierre.
Anne Dumontier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ce livre mérite une explication. « Disparu à Petra », rappelez-nous ce qui s'est passé, je crois que c'était en 1963.
C'était le 8 avril 1963. Il y avait un groupe de pèlerines associées à la cathédrale Notre-Dame, menées par le prêtre Jean Steinmann, qui était un prêtre influent à l'époque. Et ce groupe avait déjà passé une semaine en Terre Sainte. Et le lundi 8 avril, donc, ils sont allés visiter les gorges de Petra. Mais il pleuvait beaucoup ce jour-là et malheureusement, ils se sont trouvés au mauvais moment lorsqu'il y a eu une montée soudaine des eaux. Ils étaient encore dans le labyrinthe et ils ont malheureusement été tous emportés.
Parmi les disparus, évidemment, votre mère. Vous n'allez pas le savoir tout de suite parce que d'abord, vous aviez deux ans à l'époque, hein, je crois, 2 ans ou 4 ans avec votre frère. Donc, on va venir dans votre secret de famille. Mais je voudrais tout de suite quand même, avant de vous entretenir, configurer la situation. C'est parce que vous êtes la filleule, on peut le dire, de l'abbé Bernard Gouraud, qui a été directeur de RCF Reims-Ardennes, à l'époque aussi Radio Fourvière, et que vous y étiez particulièrement attaché. Votre oncle a été aussi pour vous un confident et que d'une certaine façon, il est présent lui aussi dans ce livre.
Ben, il est effectivement très présent. Alors en fait, il était le parrain de mon frère Marc Dumontier, qui a 2 ans de plus que moi. Mais j'ai rencontré donc Bernard à l'époque de mon adolescence et nous avons développé une relation très proche pendant de nombreuses années. Alors il tient un rôle tout à fait particulier dans mon livre puisqu'il m'aide à enquêter et à notamment découvrir le parcours spirituel de sa sœur, qui était une de ces pèlerines qui, malheureusement, a trouvé la mort à Petra.
Votre maman, en 1963, est encore très jeune, d'ailleurs.
Oui, alors je voudrais quand même préciser que ce n'était pas ma maman, c'est la maman de mes 2 frères. Mais moi, je suis née après, mais j'ai toujours été très intriguée par cette femme dont on ne parlait pas à la maison et qui était donc la sœur de Bernard Gouraud.
Évidemment, c'est un roman, c'est autobiographique, mais c'est romancé, parce que vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous avez arrangé quand même un petit peu cette histoire. Mais à quel moment avez-vous su exactement ce qui s'était passé à Petra? C'était bien un secret de famille?
Oui, c'était un secret de famille, car on ne parlait pas plus du tout de Nicole Gouraud, la sœur de Bernard. Et moi, j'ai découvert cette catastrophe de Petra en allant justement pour la première fois chez mon oncle à Reims, chez donc Bernard Gouraud. Et c'est lui qui m'a ressorti d'une petite valise qu'il avait avec donc, quelques effets de sa sœur. Et il avait conservé un dossier, évidemment, avec beaucoup d'articles qui étaient parus à l'époque. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la tragédie de Petra.
Et aujourd'hui, très longtemps après, vous avez éprouvé le besoin d'écrire cette histoire, de romancer peut-être un peu cette histoire, mais avec à la fois la dimension exceptionnelle de ce site de Petra, qui connaît aujourd'hui bien sûr bien des tragédies également, et puis votre famille et ce secret de famille qui était lourd à porter.
Oui, en fait, on n'avait jamais fait le deuil de Nicole Gouraud et c'est devenu un besoin de plus en plus important, autant pour mes frères que pour moi. Bon, il y avait effectivement un secret de famille que je laisserai les lecteurs découvrir en lisant mon livre. Il est vrai que je l'ai écrit un peu comme une enquête, donc un petit peu comme un roman policier. Le lecteur est dans la tête de la protagoniste principale qui se met à enquêter sur cette disparue et notamment à révéler, à briser les non-dits et à révéler les secrets de famille qui l'ont maintenu, qui ont en quelque sorte effacé sa mémoire. Donc je dirais que 60 ans après cette longue traversée du désert pour elle, je la réhabilite, je la fais ressurgir dans nos consciences et dans nos mémoires. Et c'est vraiment un travail qui était important pour moi et je suis très contente d'avoir réussi à publier ce livre et à l'avoir fini.
Au fond, en ayant fini ce livre, est-ce que finalement vous avez non pas tiré un trait, mais vous avez un peu exorcisé ce qui s'était passé? Est-ce que pour vous, c'était finalement, en tant qu'écrivain, une forme de thérapie?
Ben oui, c'était une forme de thérapie. J'avais cette voix intérieure qui, depuis longtemps, me disait qu'il fallait que je raconte cette histoire, certainement parce que j'avais eu une forme de culpabilité par rapport à Nicole, par rapport au fait qu'elle était partie faire ce voyage en Terre Sainte, et que donc malheureusement elle n'en est pas revenue. Et j'avais aussi une forme de culpabilité de savoir que elle n'existait plus pour personne. C'est comme si sa vie finalement n'avait pas eu de sens. Et c'est devenu important pour moi. Elle était très pratiquante, elle avait une foi très forte, très belle, et je voulais quand même pouvoir témoigner de la beauté spirituelle de cette personne et de sa grande élégance morale, de sa grande humilité et générosité qu'elle avait. J'ai été vraiment éblouie de découvrir son parcours spirituel, notamment pendant sa première semaine en Terre Sainte avec l'abbé Jean Steinmann.
Vous-même, c'est une question un peu personnelle. Vous n'avez jamais eu la possibilité, sans doute peut-être, vous ne souhaitiez pas du tout revoir ou aller voir sur place Petra.
Eh bien, écoutez, c'est vrai que toutes ces années, c'était un sujet qui était tabou, qui était difficile, qui était émotionnellement presque insupportable. Donc, non, je ne suis pas encore allée à Petra. Mais bon, j'en ai vu de nombreuses photos et puis j'ai parlé à beaucoup de personnes qui y étaient allées. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce livre va m'aider à aller peut-être un jour à Petra, oui.
Anne Dumontier, nous nous sommes fait une promesse. Vous habitez San Francisco, vous venez en France de temps en temps, vous allez revenir au mois de juin et je vous ai invité ici à Reims parce que vous reviendriez revoir la radio dans laquelle votre oncle a été le directeur pendant plusieurs années, revenir dans ces lieux qui pour vous seront sans doute un élément important qui redonneront aussi un sens nouveau à ce livre, parce que c'est une famille qui était impliquée dans ce drame.
Effectivement, je me réjouis de votre invitation et je serais très contente de faire ce retour à Reims, de revenir faire un pèlerinage pour mon oncle Bernard, dont j'ai été très proche et qu'on avait l'un pour l'autre une affection très profonde. Donc ça me sera vraiment avec grand plaisir que je reviendrai à Reims.
Merci en tout cas Anne Dumontier, disparue à Petra, aux éditions Nouvelle Cité. Le livre vient de sortir avec un sous-titre « Au cœur d'un secret de famille ». Merci Anne Dumontier d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce soir avec un zoom sur le CEP poursuivant son développement sur l'ensemble du territoire français. Le dispositif d'accompagnement gratuit à destination des actifs du privé et des indépendants, Mon Conseil en évolution professionnelle, renforce sa présence sur le Grand Est en ce début d'année 2024 tout particulièrement. La région accueille en effet 8 nouveaux sites, 7 en Champagne-Ardenne. Pour nous en parler, Alexandre Noll, responsable du déploiement du service Mon CEP en Champagne-Ardenne, au téléphone avec Christopher.
Bonjour Alexandre Noll.
Bien bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter le concept Mon Conseil en évolution professionnelle ?
Oui, tout à fait. Alors donc il s'agit d'un service gratuit qui vise à permettre à tout actif de faire le point sur sa situation professionnelle, réfléchir à son futur professionnel de manière guidée, je dirais, par un professionnel de l'orientation, lui permettre d'activer des démarches d'évolution, de reconversion professionnelle et être aidé, je dirais, dans la réalisation de ces démarches. Concrètement, ça consiste en un appui, je dirais, méthodologique à des conseils visant à faire les bons choix qui correspondent, voilà, à des souhaits d'évolution ou de reconversion professionnelle.
Créé depuis 2019, quel bilan faites-vous de ce dispositif ? Alors prenons, si vous voulez bien, secteur par secteur. On commence par le Nord avec le département des Ardennes.
Oui, tout à fait. Donc ce service, effectivement, est déployé sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne pour ce qui concerne la Champagne-Ardenne, mais il est présent partout en France, bien sûr. Donc on va commencer par les Ardennes et effectivement, ce service est déployé alors depuis 4 ans sur les sites de Givet, de Charleville-Mézières et de Vouziers. Et puis plus dernièrement, effectivement, depuis janvier, nous avons ouvert le site de Sedan, de Rethel également, donc afin d'être au plus près des besoins, je dirais, des personnes qui entrent dans ce service.
Alors on vient de s'intéresser au département des Ardennes. Qu'en est-il du département de la Marne ?
Alors en ce qui concerne le département de la Marne, effectivement, là aussi, nous sommes présents depuis 4 ans sur les sites comme Reims, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Cézanne. Et dernièrement, nous avons donc ouvert 2 nouveaux sites à Sainte-Ménéhould, également à Épernay, à Fismes et à Sommesoux dans la Marne. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, voilà, tous les secteurs d'activité sont représentés, mais on a une majorité de personnes issues du commerce, du domaine également de la santé, du social, et puis également du domaine de l'industrie qui est un peu moins représenté, mais malgré tout qui représente plus de 11% donc des publics.
Alexandre Noll, responsable du déploiement du service Mon CEP en Champagne-Ardenne. Qu'en est-il du département de l'Aube ?
Nous sommes présents donc depuis 4 ans sur les sites de Troyes, Bar-sur-Aube et Romilly-sur-Seine. Et dernièrement, nous avons donc ouvert une nouvelle agence à Arcis-sur-Aube également. Les secteurs d'activité là aussi les plus représentés sont assez similaires d'un département à l'autre. On va retrouver donc les personnes issues du commerce, beaucoup qui entrent dans ce service, du domaine de la santé, du social et puis également de l'industrie.
Et enfin la Haute-Marne.
Et donc, en ce qui concerne effectivement la Haute-Marne, le service CEP est présent au travers des sites de Saint-Dizier, de Chaumont, de Langres et plus récemment donc de Joinville, avec là aussi une proportion, je dirais, de personnes qui sollicitent le service, qui sont issues du domaine de l'industrie, peut-être plus représentées que sur les autres départements, du commerce ensuite, et toujours santé sociale pour 16% d'entre eux.
292 personnes ont bénéficié du service en 2022 du côté de la Haute-Marne, 562 du côté de l'Aube, 1173 personnes dans le département de la Marne et enfin 378 personnes dans le département des Ardennes. Alexandre Noll, comment se passe justement le processus de ce dispositif concrètement ?
Alors concrètement, les personnes ont le choix, hein. Soit elles intègrent le service par le biais de notre site internet sur lequel donc elles peuvent effectivement laisser leurs coordonnées. Dans ce cadre-là, elles sont recontactées dans les 48 heures par un chargé d'information, hein, qui va effectivement donc réaliser ce qu'on appelle nous l'aiguillage de service et leur permettre de bénéficier d'un premier rendez-vous qui sur nos sites principaux intervient dans un délai maximum de 10 jours. Voilà, ce sont nos engagements de service. Elles peuvent également donc directement se rendre dans nos agences afin de là aussi pouvoir avoir un rendez-vous, et elles peuvent effectivement ensuite en dernier lieu peut-être contacter le numéro d'appel unique national qui est le 09 72 01 02 03. Voilà.
Alexandre Noll, quel exemple pouvons-nous donner à nos auditeurs justement sur ce dispositif Mon Conseil en évolution professionnelle ?
Alors, très souvent, effectivement, ce sont des salariés qui nous abordent. Pour près de 95% des publics, ils sont salariés, qui, très souvent, voilà, font le constat qu'ils ne sont plus forcément bien dans leur emploi. Pour autant, ils n'ont pas identifié d'autres orientations professionnelles. Et dans ce cadre, on peut travailler à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Donc, ça passe effectivement par l'investigation sur les facteurs de motivation au travail, sur les conditions de travail recherchées, sur les valeurs, etc. Et bien sûr, on met en parallèle les métiers qui recrutent à aujourd'hui, et on essaye effectivement de déterminer une nouvelle orientation. On peut tester également, puisqu'on peut tout à fait permettre à la personne de réaliser soit pendant son temps de travail ou en dehors du temps de travail, et c'est plus souvent en dehors du temps de travail que ça intervient, une période d'immersion au milieu professionnel pour pouvoir effectivement s'immerger dans son futur quotidien de travail et valider effectivement ou non le projet. Alors effectivement, j'ai en tête là un exemple que je pourrais vous donner que j'ai d'ailleurs une personne que j'ai accompagnée récemment, puisque je fais encore quelques accompagnements, qui était salarié du commerce, qui n'avait plus d'aspiration à réaliser son métier, aussi parce que on connaît les contraintes du commerce avec les horaires notamment du commerce, qui faisait le constat qu'à aujourd'hui elle souhaitait peut-être faire autre chose, qu'elle n'avait plus d'aspiration à son métier. Et donc, dans ce cadre-là, le CEP l'a aidé à cibler une orientation qui lui correspondait donc davantage. Elle a pu réaliser donc une période de mise en situation en milieu professionnel dans le secteur du social. À l'issue de cette période de stage, elle a pu identifier la formation qui correspondait donc au projet qu'elle visait. Et puis ensuite, donc, piloter les démarches de financement de cette formation pour lui permettre d'intégrer la formation qui est en adéquation avec son projet. Et à l'issue, effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'elle revienne dans le service pour un appui dans l'élaboration de tout ce qui est outils techniques de recherche d'emploi, le CV, la lettre, préparation à l'entretien d'embauche. Voilà, c'est typiquement un parcours qu'on peut connaître, élaboration du projet, on teste la faisabilité, on identifie la solution de formation la plus en adéquation avec le projet, et puis ensuite la personne part en formation donc formation financée par un dispositif, et on la retrouve ensuite donc pour réaliser ses outils et techniques de recherche d'emploi.
Merci Alexandre Noll, responsable du déploiement du service Mon CEP en Champagne-Ardenne, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. À très bientôt.
À bientôt.
Merci Alexandre Nol et Christopher Fausten. La Champagne-Ardenne bénéficie donc en ce début d'année d'un nouveau renforcement du dispositif Mon CEP, des ouvertures permettant de porter le nombre de sites sur ce territoire à 21 et à 67 sur l'ensemble du Grand Est. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouveau 18-19 en Champagne. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.